Bonjour à tous. Donc, vous allez assister ce soir à une conférence présentée par David Belin. Donc, dans un premier temps, je vais juste revenir sur ce qui se passe un petit peu cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine du cerveau. Donc, la semaine du cerveau est un événement international et qui, en France, est développé dans 20 villes, donc où vont avoir lieu diverses manifestations. À Poitiers, nous avons organisé des manifestations auprès de jeunes dans les lycées, également dans les écoles primaires. Donc, c'est de là qu'ont été produits ces dessins, ainsi que ceux qui sont exposés à l'entrée avant la salle. Et donc, vous avez également la conférence de ce soir et également vendredi soir, ici, en collaboration avec l'Espace Mendès France, la diffusion d'un film suivi d'un débat autour du thème de la maladie d'Alzheimer. Donc, maintenant, revenons sur la soirée de ce soir. David Belin, chercheur INSERM, le docteur David Belin, va vous présenter une conférence sur le thème drogue et addiction. Donc je vais lui laisser la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme Sophie m'a introduit, je suis associé de recherche à l'INSERM et je dirige l'équipe psychobiologie des désordres compulsifs, bien évidemment au centre de la thématique de laquelle se situe l'addiction. Donc ce soir, on va débattre des addictions aux drogues. Est-ce que c'est un problème de santé ou d'individu ? S'agit-il d'un délit ou s'agit-il d'une pathologie ? Donc, avant toute chose, je vais au cours de ma présentation présenter certains résultats qui ont été obtenus avec des animaux. Donc, je voulais rassurer l'audience que les expérimentations qui ont été réalisées dans mon laboratoire sont systématiquement focalisées sur un bien-être constant de l'animal, que l'animal ne subit peu de souffrance, sinon véritablement minimisée, et que nous suivons des règles éthiques draconiennes qui sont conformes à la législation anglaise de 1986, qui est la législation la plus stricte au monde. Donc revenons à notre sujet, les drogues. Donc qu'est-ce qu'une drogue d'abus ? Une drogue d'abus, ça pourrait être défini comme l'ensemble des substances psychotropes, c'est-à-dire qui ont un effet sur le cerveau, susceptibles d'engendrer une consommation problématique. Elle regroupe l'alcool et l'ensemble des substances des tables 1 à 4 de la Convention de l'ONU de 1971. Donc il y a une liste de substances incommensurables qui regroupe l'ecstasy ou MDMA, la mescaline, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, le cannabis et bien d'autres substances. Également, récemment, avec l'émergence du jeu pathologique, le jeu est rentré dans la classe des substances addictives, bien que le jeu n'agisse pas directement pharmacologiquement sur le cerveau. Donc, quel est le mode d'action des drogues ? Chaque drogue a une cible moléculaire propre dans le cerveau. Donc, elles ont chacune une spécificité particulière. De façon générale, bien qu'elles aient une spécificité particulière, les drogues altèrent la perception du monde et les sensations. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont avoir recours à des substances psychotropes au cours de leur vie. Et les effets euphorisants des drogues, quasiment toutes ont des effets euphorisants importants, sont associés à certaines hormones dans le cerveau ou neurotransmetteurs. Donc en fait, est-ce que l'addiction c'est un problème de société du XXe siècle ? Est-ce que ça remonte à loin ? L'usage de drogue, c'est quelque chose qui est né avec l'humanité, en fait. Il y a des traces d'utilisation de substances psychoactives qui remontent à 15 000 à 20 000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé du matériel pour pouvoir priser, c'est-à-dire sniffer, il y a à peu près 8 000 ans en Mésopotamie. Et très souvent, ces drogues étaient associées aux rites religieux, aux trans et aussi à augmenter l'activité physique. Dans ce cas-là, je pense particulièrement aux Incas qui mâchaient des feuilles de coca, la plante dont est extraite la cocaïne, et le fait de pouvoir mâcher ces feuilles de coca les aidait à pouvoir travailler de longues journées dans des altitudes qui généralement minimisent les capacités physiques. Et donc pour la petite histoire, lorsque les Européens ont colonisé l'Amérique latine, ils se sont rendus compte que les Indiens utilisaient cette substance. Le clergé a trouvé que c'était quelque chose qui avait à voir avec le diable. Donc les Indiens se sont vus privés de coca. Et lorsque les Espagnols se sont rendus compte que le rendement des Indiens était tombé à 50% de ce qu'il était, ils ont réintroduit l'utilisation séculaire de la feuille de coca. Donc le dopage, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le grand chamboulement qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin du 19e siècle, le principe actif de ces plantes psychotropes a été extrait, de sorte à pouvoir synthétiser des drogues pures et bien évidemment qui sont plus toxiques et bien plus addictives du fait qu'elles soient beaucoup plus concentrées. Donc une question que tout le monde se pose régulièrement, c'est y a-t-il des drogues plus dangereuses que d'autres ? Donc je sais que c'est imbitable, mais c'est la seule illustration que j'avais de pouvoir présenter l'explicitation de la dangerosité des drogues. Donc il y a deux paramètres à prendre en considération lorsqu'on parle de dangerosité de drogue. Les dommages physiques et la dépendance. À savoir que des drogues peuvent avoir de faibles propriétés addictives, mais de fortes conséquences sur la santé, et vice-versa. Donc comme vous pouvez voir, la drogue la plus dangereuse de loin, c'est l'héroïne, suivie de près par la cocaïne, les barbituriques, et ensuite un ensemble de drogues, alcool, benzodiazépines, amphétamines. Les benzodiazépines, ce sont des anxiolytiques. Mais comme vous pouvez voir ici, le tabac est classifié comme une des drogues les plus dangereuses, tant sur le fait qu'il ait des propriétés sur la santé, des influences sur la santé importantes, mais surtout que c'est une drogue extrêmement addictive en fait. Donc les drogues dures, les drogues super sexy, ne sont pas forcément les plus addictives, bien que on puisse penser le contraire. Donc là, je voulais simplement vous illustrer, c'était juste à titre de représentation, que l'ensemble des drogues ont été classifiées selon la dangerosité physique, la dépendance ou la dangerosité sociale, et que selon cette classification tripartite, l'héroïne et la cocaïne arrivent bien en tête, bien évidemment. Mais attention, l'héroïne et la cocaïne sont les plus dangereuses, mais toutes les drogues sont dangereuses. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas tous égaux face aux drogues et qu'il y a certaines drogues qui ne présenteront pas de propriétés addictives pour moi, mais qui d'autres drogues me rendront dépendant, et ça pourrait être l'inverse pour vous. Autre chose que je voulais illustrer, notamment par le tabac, c'est que le statut légal d'une drogue ne la rend surtout pas moins dangereuse. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de fumer ou de boire de l'alcool en France que l'alcool et la cigarette sont moins dangereux que les autres drogues. Et bien loin de là, l'alcool et la cigarette restent les drogues les plus mortelles dans le monde. Donc quelles sont les différentes voies d'administration des drogues ? En fait, on peut en manger ou en boire. On peut priser ou sniffer, donc très souvent pour la cocaïne. On peut se les injecter ou on peut les fumer. Très généralement, la dangerosité de la voie d'administration est bien plus importante par voie aérienne que par voie orale. La raison pour laquelle il est plus dangereux de fumer, par exemple, de la cocaïne que d'en boire ou que d'en sniffer, vient du fait que par voie aérienne, la drogue arrive très rapidement aux poumons, le système le plus vascularisé du corps, et bien plus rapidement au cerveau. Et donc la vitesse d'arrivée de la drogue au cerveau est déterminante dans les propriétés addictives de la drogue. Donc c'est beaucoup plus dangereux de fumer de la drogue que même de se l'injecter. Cependant, il est bien évident que dans les pratiques d'injection de drogue, l'utilisation des seringues et l'ensemble des risques sanitaires qui y sont associés facilitent la transmission du sida ou d'autres maladies dangereuses cette fois-ci pour la santé. Donc, pour l'instant, je vous ai parlé des drogues, mais je ne vous ai pas parlé d'addiction. Il y a une grande différence entre prendre des drogues et être addict aux drogues. Je bois régulièrement du whisky le soir quand je rentre chez moi. Je ne pense pas pour autant être quelqu'un qui soit alcoolique. Et je souhaite que ce soit la même chose pour la majorité d'entre vous. Donc vous avez ici, je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est simplement une illustration, que en fait, de la prise initiale de la drogue au développement d'une addiction, il y a différents stades qui se passent, au niveau desquels on pourrait essayer de développer des stratégies soit de prévention, soit thérapeutiques. À savoir que je vais être exposé pour la première fois de ma vie à une drogue, je vais ensuite développer une prise récréative intermittente. À ce moment-là, on peut voir si je présente un risque ou pas et essayer de faire en sorte que je n'aille pas plus loin dans ma prise de drogue. Je peux développer par la suite une prise régulière jusqu'à l'addiction. Donc à chacune de ces étapes, il est nécessaire qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans le cerveau, d'un point de vue biologique ou d'un point de vue psychologique, mais également de déterminer les cibles pharmacologiques sur lesquelles on peut jouer pour essayer de traiter l'addiction. Donc, j'en viens à l'addiction. Si pour l'instant, on a parlé de drogue et pas d'addiction, qu'est-ce que c'est que l'addiction ? Donc d'abord, l'addiction, c'est une pathologie qui présente des coûts humains, socio-économiques énormes. On a souvent tendance à minimiser les problèmes liés à l'addiction. En Europe, il y a plus de 1,5 million de personnes, et aux États-Unis, plus de 3,7 millions de personnes qui présentent une addiction grave. Les coûts pour l'Europe ou pour les États-Unis, c'est à peu près 1,6 milliard en Europe ou 3,7 milliards d'euros aux États-Unis de coûts annuels. Donc ces coûts regroupent les coûts directs de la prise en charge du patient, la perte de fonctionnalité professionnelle, donc l'ensemble des coûts indirects, économiques, sociaux. Donc l'addiction, c'est un véritable problème de santé publique. Donc l'addiction, c'est une maladie, d'accord ? Et elle est caractérisée par le fait que ce soit un désordre compulsif chronique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? La chronicité, ça implique que c'est une maladie qui dure très longtemps, et le fait que ce soit un désordre compulsif, c'est une maladie contre laquelle on ne peut pas résister. Elle est caractérisée par une perte de contrôle sur la prise, à savoir qu'un patient addict va avoir tendance à se dire « je vais prendre un verre de vin pour l'alcool et finir la bouteille » sans véritablement s'en rendre compte. Elle est aussi caractérisée par un maintien de la prise malgré ses conséquences néfastes. Je sais que fumer me fait mal, mais je ne peux pas m'arrêter. Elle est caractérisée par une très forte probabilité de rechute, à savoir que la majorité des gens qui souffrent d'une addiction vont être capables, des fois dans leur vie, d'arrêter de prendre de la drogue pendant un mois, six mois, un an, dix ans. Mais malheureusement, 85% d'entre eux, un jour, rechuteront dans la prise de drogue. Donc, là, je pousse un peu ma conclusion loin, mais l'addiction, c'est une maladie comme le diabète. Une fois qu'on est addict, on est addict jusqu'à ce qu'on meure. Donc, les âmes sensibles, je suis désolé, mais c'était simplement pour vous illustrer que l'addiction, c'est pas juste un problème de faiblesse de volonté. On a très souvent tendance à se dire il est addict parce que bon, il n'est pas assez fort. Moi, ça ne pourrait pas m'arriver. Lorsqu'on est capable de se rendre dans des états comme ça, je peux vous assurer que ce n'est pas simplement un problème de faiblesse de volonté. Donc, là, je vous ai présenté une illustration générale de ce qu'était l'addiction, mais en fait, comment on diagnostique l'addiction ? Donc, la stratégie de diagnostic, c'est lorsque le patient se présente à l'hôpital ou le psychiatre, parce que c'est une démarche généralement volontaire du patient, ou suite à une overdose ou un problème social, le patient se retrouve incarcéré ou en face d'un médecin, il se voit diagnostiqué de la façon suivante. Il faut qu'il présente au moins 3 de 7 critères au cours des 12 derniers mois, selon le manuel diagnostic et statistique des désordres psychiatriques, le DSM-4. Et ces critères sont les suivants. Soit une tolérance aux effets de la drogue, c'est-à-dire un besoin de plus grande quantité pour obtenir l'effet désiré, ou un effet diminué en cas d'usage continu de la même quantité de substance. Ou la présence d'un sevrage, dont témoigne soit un syndrome de sevrage caractéristique de la substance, soit la nécessité de prendre la même substance pour éviter ou soulager les symptômes de sevrage. Ensuite viennent des aspects plus compulsifs. La substance est prise en quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long que ce que la personne avait initialement envisagé ou souhaité. La personne passe un temps considérable à faire le nécessaire pour se procurer la substance, la consommer ou récupérer de ses effets. La personne abandonne d'importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs en raison de l'usage de la substance. La personne poursuit la consommation de la substance malgré la connaissance d'un problème physique ou psychologique persistant ou récurrent causé ou exacerbé par la substance. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et la personne présente un désir persistant ou un effort infructueux pour réduire ou contrôler sa consommation. Ces gens-là veulent arrêter, simplement ils ne peuvent pas. Donc c'est à nous de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas. Donc en fait, comme vous pouvez voir, il faut présenter 3 de ces 7 critères pour être diagnostiqué addict, ce qui implique intrinsèquement qu'on peut être addict pour des raisons différentes. Bien évidemment, parmi ces critères, certains se ressemblent, mais si on prend des combinaisons de 3 critères sur 7 critères, ça fait plusieurs profils d'addiction. Donc on n'a pas affaire à des populations qui sont homogènes. Tous les addicts ne sont pas les mêmes personnes. Ce sont des populations extrêmement hétérogènes, et ce qui implique qu'il est nécessaire de développer une meilleure compréhension de l'addiction de sorte à pouvoir établir des suivis médicaux et psychologiques qui soient presque à la carte. Donc pour revenir à la question initiale, est-ce que l'addiction c'est un problème d'individu, un problème de société ? Je voudrais prendre l'exemple de l'addiction à la cocaïne. On a parlé de l'histoire des drogues, mais la prise de drogue, on sait que ce n'est pas l'addiction. Donc maintenant, prenons l'histoire de l'addiction. Donc par exemple, l'épidémie d'addiction du XXe siècle, il est très intéressant de constater qu'elle a été introduite en Europe par un pape, une reine et un psychiatre. Donc le pape Pie VI, la reine Victoria II et Sigmund Freud étaient tous les 3 des grands consommateurs du vin Mariani, qui est une population tonique fabriquée en Corse, issue d'un mélange de cocaïne, mais des belles quantités de cocaïne, et du vin. Et les 3 ont véritablement vanté les propriétés boostantes du vin Mariani, et ont, on ne va pas leur faire porter le chapeau, mais véritablement favorisé l'explosion de la consommation de cocaïne en Europe. Un autre exemple, Freud a voulu utiliser la cocaïne pour soigner l'addiction aux opiacés, à l'héroïne. Et 10 ans plus tard, il s'est rendu compte qu'il a essayé de tuer un tigre avec un dragon. Donc vous avez ici donc le Coca-Cola, c'est pas un mytho, le Coca-Cola était vraiment une boisson qui était pleine de cocaïne, et elle a été en fait introduite aux États-Unis en réponse à la prohibition, puisque le vin Mariani, vu que c'était de l'alcool, était interdit de vente aux États-Unis, les gens ont pris la même quantité de cocaïne et l'ont mis dans une boisson qui n'était pas alcoolisée. Donc il y a toute une histoire sur les prises de drogue, on mettait de la cocaïne dans les dentifrices, et la dope, la façon qu'on a familièrement d'appeler la cocaïne ou la drogue, la dope est une boisson extrêmement populaire aux États-Unis. Donc en fait, la dépendance et l'addiction, c'est vraiment dépendant aussi du contexte social. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'addiction à la cocaïne. En fait, avant 1987, l'addiction à la cocaïne, ça n'existait pas pour l'Organisation mondiale de la santé. À partir des années 80, suite à une grosse épidémie d'addiction au crack aux États-Unis, là, l'addiction à la cocaïne a été introduite dans les diagnostics cliniques, et c'est à partir de là que les différents critères de compulsivité dans le DSM-4, le manuel avec les critères que je vous ai présentés tout à l'heure, ont été introduits. Pourquoi ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce qu'en fait, avant les années 80, la majorité des addictions reconnues, c'était les addictions à l'héroïne, ou à la morphine, ou à l'opium. C'est des opiacés, c'est la même famille. Et en fait, l'addiction à l'héroïne, ça implique que l'individu prenne sa dose d'héroïne tous les jours, augmente la fréquence de ses prises, mais en prenne tous les jours. La cocaïne, c'est pas du tout pareil. La cocaïne, je vais passer 3 jours à trouver de l'argent, je vais m'acheter 3 grammes de cocaïne, et je vais passer 24 heures à 36 heures à me mettre des lignes, à pas manger, à pas boire, à rien faire, et après je vais passer 3 jours à récupérer. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de prendre de la drogue tous les jours. Et le fait que cette prise soit intermittente, il a fallu beaucoup de temps aux sociétés modernes de comprendre que différentes addictions à différentes drogues s'exprimaient de façon différente. Donc c'est seulement après la grosse épidémie de crack aux États-Unis, donc le crack c'est la cocaïne qu'on fume, extrêmement addictive, que les autorités se sont rendues compte qu'il y avait véritablement un problème sanitaire avec la cocaïne. On savait que la cocaïne était dangereuse avant, elle avait été prohibée dès 1912, mais l'addiction à la cocaïne a été reconnue comme 1980. Donc certaines personnes suggèrent en fait que l'addiction, ça peut être véritablement un problème de société malgré tout. Il s'avérait qu'il pourrait y avoir une évolution trop rapide et trop importante de l'offre des stimulations environnementales et que cette évolution ait dépassé les capacités adaptatives de notre cerveau émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on était petit, quand on allait au supermarché, il y avait 3 boîtes de gâteaux et il y avait 3 bonbons. Et très souvent, lorsque nos parents, quand ils nous y amenaient, on savait véritablement le bonbon ou le gâteau qu'on voulait. Aujourd'hui, amener un gamin de 3 ans ici ou là, soit il voudra rien, soit il voudra tout, mais il aura beaucoup de difficultés à faire un choix. Et très souvent, le choix qu'il fera ne sera pas véritablement un choix volontaire parce qu'il préférera ce bonbon-là, ça sera un choix impulsif. Il finit par focaliser son attention là et puis il dit bah, « je veux ça ». Bien évidemment, il aime tout. Donc il est très difficile, c'est une illustration et ça n'est que spéculatif, mais il est très difficile d'envisager que notre cerveau puisse véritablement suivre la cadence à laquelle les stimulations environnementales nous sont procurées aujourd'hui. Donc en fait, je vous ai expliqué que la définition de l'addiction pouvait changer au fil du temps. Pourquoi ça change au fil du temps ? Ben parce qu'en fait, le gros problème auquel on fait face, c'est qu'on ne connaît absolument pas les mécanismes de l'addiction. On prendrait un cardiologue, il pourrait vous expliquer comment se passe un infarctus. On pourrait vous expliquer comment se passe un AVC. L'addiction, on ne peut pas vous expliquer comment ça se passe, on n'a aucune idée. On ne connaît pas l'étiologie, donc c'est-à-dire les causes de l'addiction. On ne sait pas ce qui amène les gens à développer la pathologie. Et donc en fait, la pathologie, elle n'est définie que selon les symptômes du manuel diagnostique que je vous ai présenté tout à l'heure. On va chez le médecin, il y a 7 critères, on présente ces 7 critères ou pas, on est addict ou pas. Si dans 10 ans les critères changent, ben les addicts d'aujourd'hui ne seront pas les addicts de demain. Pour la simple raison qu'on n'a pas de façon objective de véritablement dire ce qui se passe dans le cerveau ou dans le comportement pour qu'on soit addict. L'autre problème auquel on doit faire face, c'est que pendant très longtemps, on a considéré qu'il y avait un mécanisme de l'addiction. On ne le connaissait pas, mais on envisageait la compréhension de l'addiction comme une pathologie unique en fonction des différentes drogues, alcool, cocaïne, héroïne, nicotine ou même le jeu. Et le problème, c'est qu'il est très très probable qu'en fait, il y ait autant de pathologies que de substances. L'addiction à l'héroïne, ça ne ressemble pas du tout à l'addiction à la cocaïne. Donc déjà qu'on n'a pas compris une, de la comprendre plusieurs, ça ne va pas être évident. Et donc le gros problème qui se pose, après tout ça, c'est qu'on n'est vraiment pas tous égaux face aux drogues. Donc là, on a deux superstars qui sont assez connus, le guitariste des Stones, Amy Winehouse. Amy Winehouse est une consommatrice récurrente de cocaïne. Lui, il a même sniffé les cendres de son père il y a 2 ans. Ils ont la chance d'être encore en vie. Tous ceux-là sont morts. Donc que ça aille à Jimi Hendrix ou Bon Scott, le chanteur d'ACDC, ils sont morts soit d'overdose, soit d'alcool, soit de barbiturique, c'est suggéré aussi pour Maine Monroe, soit d'opiacé. Donc en fait, sur 100 personnes qui vont prendre de la drogue une fois dans leur vie, donc de l'alcool, du shit ou du cannabis, ce que vous voulez, certaines seulement vont rentrer dans une prise récréative, il y en a certains qui vont faire un bad trip dès la première prise, il y en a qui ne vont pas s'intéresser forcément, ça ne va pas leur plaire, donc ils ne vont pas continuer. D'autres, de la prise récréative, vont continuer vers un abus de la drogue, à savoir qu'ils vont commencer à prendre de la drogue et ça va avoir certaines conséquences sur leur vie quotidienne. Et parmi ces gens qui vont abuser, seulement une partie va développer une addiction. Ce qui fait qu'en fait, sur 100 personnes qui vont prendre de la drogue, seulement 15 à 20% vont développer une addiction. D'accord ? Le gros problème qui se passe par rapport à ces pauvres gens, c'est qu'ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, 85% de malheur, de rechuter dans la prise de drogue. Qu'ils arrêtent ou pas, ils reprendront malheureusement un jour. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'addiction ? Donc, brièvement, en fait, l'addiction, c'est l'interaction entre un phénotype vulnérable, c'est-à-dire nos gènes, un environnement particulier, notre histoire, ce qui fait que ça fait une partie de notre psychologie et notre contexte psychoaffectif, et bien sûr, il faut soit de la drogue, soit du G pour développer une addiction. Donc voilà, la conclusion de l'addiction, c'est qu'en fait, il faut qu'on s'intéresse à un phénotype vulnérable, un environnement et une drogue. Donc on a dans cette salle Marcello Solinas, qui est un spécialiste de l'influence de l'environnement sur les propriétés addictives des drogues. Et on s'intéresse à Poitiers à essayer, dans une approche globale, de comprendre comment ça peut se passer. Donc, étant biologiste, je n'ai jamais vu de patient addict. Donc c'est gonflé pour moi de vous parler des patients addicts aujourd'hui, mais je vais essayer. Donc en fait, un patient addict, c'est quelqu'un qui présente un énorme déficit de prise de décision. C'est quelqu'un, globalement, on lui dit, tu as 1 000 euros aujourd'hui ou tu as 1 million d'euros demain, il ne sera pas capable d'attendre demain, il prendra les 1 000 euros aujourd'hui. C'est quelqu'un qui présente une forte anxiété, un trait de personnalité de recherche de sensations. Donc, c'est pas parce qu'on fait du skydiving, donc qu'on fait du surf dans les airs ou qu'on fait du saut en parachute qu'on va être addict, mais il y a de fortes associations en fait entre les deux. Les personnes addictes présentent de très forts niveaux d'impulsivité, de nombreuses obsessions. Donc on appelle ça le craving dans le jargon populaire scientifique, à savoir que les patients addicts vont avoir l'idée de la drogue qui va émerger comme ça, spontanément, et ils vont avoir énormément de difficultés à pouvoir s'en débarrasser. Ça va très souvent les conduire à prendre de la drogue. Je pense que j'ai suffisamment insisté là-dessus, ils rechutent très souvent. Et ils présentent aussi très souvent de fortes dépressions. Donc les pauvres, ils ne sont pas gâtés quand même. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, dans ce spectre général, il y a d'importantes différences entre les classes de drogue. À savoir que les personnes qui sont anxieuses vont très souvent prendre des opiacés comme l'héroïne ou l'alcool pour soulager leur désordre anxieux. Ces deux drogues-là, très souvent, nous décontractent, on sent beaucoup mieux, ça peut quelque part soigner notre anxiété. Bien évidemment, ça empire au fil du temps dès qu'on en a pris. Les gens qui sont impulsifs, là, dans ce cas-là, ça ne va pas forcément les soigner, mais ils vont avoir tendance à prendre plus de cocaïne. Donc, les gens qui sont addicts présentent aussi une prise de risque inconsidérée. Donc, très souvent, les gens qui prennent une drogue vont en prendre plusieurs. Ils vont avoir aucun problème à s'échanger les seringues. Ils vont avoir 15 partenaires sexuels dans la même nuit sans se protéger. Ils vont conduire sous les effets des drogues à 160 km/h. Ils présentent un recul social et professionnel important. Et malheureusement, très souvent, parce que la drogue, ça coûte cher, ils finissent par avoir recours à la criminalité. Donc, ces pauvres, qu'est-ce qui se passe psychologiquement qui puisse les amener, en fait, à développer ce genre de profil comportemental ? Donc, on a compris aujourd'hui que dans l'addiction, il y a tout d'abord une altération des processus mnésiques, à savoir que le système de mémoire des patients, des gens qui sont addicts est véritablement déstabilisé par la drogue par rapport aux gens normaux. Donc d'abord, il développe des associations pathologiques entre la drogue et les stimuli associés. Donc avant d'aller plus loin, je dois un petit peu vous expliquer les principes de ce qu'on appelle le conditionnement pavlovien, à savoir que notre système limbique, notre système de récompense, nous a permis au cours de l'évolution d'apprendre à approcher les choses bonnes dans l'environnement, de fuir les choses mauvaises et de répondre à nos besoins primitifs. Manger, boire, se reproduire, déféquer. Et donc, on a acquis l'aptitude à pouvoir associer des stimuli dans l'environnement à des sources de renforcement. Donc, ce que je vais appeler renforcement, c'est un renforçateur naturel comme du chocolat, de la nourriture, ce que vous voulez. De sorte que lorsque tu es associé une fois à un stimulus et l'obtention d'un renforçateur, on va être capable de transférer les propriétés motivationnelles du renforçateur sur le stimulus. Ça fait quoi, ça? Ça fait que la prochaine fois qu'on voit ce stimulus, on sait « Ah, là, je vais peut-être avoir du chocolat. » C'est beaucoup plus, en fait, c'est beaucoup plus bien illustré lorsque je parle de renforcement de peur. Je suis dans la forêt, je vois un arbre particulier, un serpent me saute dessus. La prochaine fois que je verrai l'arbre, je serai sur mes gardes. D'accord? C'est important pour la survie. Qu'est-ce que font les drogues? Ben, en fait, elles sont capables de véritablement amplifier la valeur prédictive des stimuli qui leur sont associés. À savoir que lorsque je prends de la drogue, l'ensemble des stimuli dans l'environnement qui vont être associés à la prise de drogue vont beaucoup plus attirer mon attention, beaucoup plus me suggérer d'aller rechercher de la drogue. C'est la première chose. Il y a un autre aspect de la mémoire qui est aussi altéré, c'est un comportement instrumental anormal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un comportement instrumental ? C'est réaliser une action sur son environnement pour obtenir un renforçateur. Donc je vais travailler pour avoir de l'argent, cet argent me permet d'aller au champ ou à Leclerc acheter à manger. Ou c'est aussi effectuer une action sur son environnement pour éviter d'avoir une punition. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe en fait pour les renforçateurs naturels ? Lorsque ce fameux stimulus qui a été associé au renforçateur est présent, il va générer chez vous et moi une représentation mentale qui est basée sur les propriétés hédoniques de ce renforçateur. Le chocolat, quand j'en mange, c'est bon. Lorsque le stimulus qui est associé au chocolat est présent, hop, l'idée du chocolat m'arrive dans la tête, et je dis, c'est bon. Cette représentation mentale explicite va m'amener à effectuer des actions sur mon environnement pour obtenir mon renforçateur. D'accord ? Donc, l'obtention du chocolat est conséquente à une représentation explicite, je suis conscient, je me représente que c'est bon, qui entraîne un ensemble d'actes sur mon environnement qui amène à l'obtention du chocolat. C'est ce qu'on appelle une action dirigée à un but, à savoir que je suis conscient de ce pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Les drogues, ce qu'elles font, c'est en fait, lorsque le stimulus associé à la drogue arrive, tout le reste est oublié. On ne se représente plus rien. Et bien pire que ça, en fait, ce stimulus va directement engendrer un comportement de recherche de drogue sans qu'on ait au préalable une représentation explicite de la drogue. Le stimulus nous amène à répondre sans qu'on soit conscient de ce pourquoi on répond. Pour la simple et bonne raison qu'il a obtenu des propriétés motivationnelles suffisantes pour pousser l'individu à répondre. Si ce n'est pas clair, je peux reprendre. Donc il y a ces problèmes de mémoire, donc à savoir que pour les renforçateurs naturels, on apprend à se représenter les choses pour quoi on va travailler. Pour les drogues vont usurper le système de mémorisation et attribuer aux stimuli dans l'environnement un contrôle direct sur notre comportement. C'est ce qu'on appelle un automatisme. Donc dans la vie quotidienne, on a certainement tous vécu ça. Je vais vous illustrer ce que c'est qu'un automatisme. J'étais à l'hôtel à une conférence il y a 2 mois, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'ai appuyé sur l'interrupteur, la lumière a grillé. Je suis sorti au restaurant, je sais pertinemment que la lumière a grillé. Il fait nuit, je reviens dans ma chambre d'hôtel, j'ouvre la porte, la première chose que je fais, c'est appuyer sur l'interrupteur. Donc, soit j'ai bu trop d'alcool, soit véritablement ce qui a motivé mon appui sur l'interrupteur, c'est pas que je savais qu'appuyer sur l'interrupteur allait allumer la lumière, puisque la lumière, je savais qu'elle était grillée. C'est le fait qu'arrivé dans cette pièce alors qu'il faisait nuit, le stimulus, l'interrupteur, a généré chez moi une réponse automatique, indépendante de ma conscience des conséquences, qui était d'appuyer sur l'interrupteur. L'appui, ça n'a rien apporté. Simplement, je l'ai fait. Et je pense que c'est arrivé à d'autres qu'à moi. C'est une réponse automatique. Les stimuli dans l'environnement contrôlent directement notre comportement sans qu'on ait de représentation explicite des conséquences de nos actes. D'accord ? Donc les addicts, les pauvres, ils ont ça, mais en plus, ils ont un problème de motivation. Donc pour un renforçateur naturel, les stimuli qui ont été associés au renforçateur nous disent « Ouh, c'est très bon !» Et forcément, je me dis « Ouh, c'est bon !» Donc à partir de là, lorsque je vais manger le chocolat, je vais avoir accès aux propriétés hédoniques, c'est-à-dire le plaisir que me procure le chocolat. Et quand je le mange, je me dis « Oui, oui, c'est bon !» Et bien évidemment, je suis capable, a posteriori, de me dire « Oui, c'était vraiment bon !» D'accord ? De cette façon-là, si je mange un chocolat bien meilleur demain, je serai capable de dire « Ce chocolat est meilleur que celui de la veille !» Je suis capable de mettre à jour les propriétés motivationnelles du chocolat et des stimuli qui sont associés par rapport à l'expérience hédonique, physique, que j'ai eue du chocolat. Les pauvres patients dépendants, eux, les stimuli sont déjà associés à la drogue, ils disent c'est trop bon, la drogue c'est mieux que le chocolat. À partir de là, les stimuli, comme je vous l'ai dit, génèrent une réponse automatique qui n'est pas dépendante des propriétés motivationnelles de la drogue. Et pire que tout, c'est que j'aime ou que j'aime pas la drogue, ce que la drogue fait sur le cerveau, c'est qu'elle dit « Ah ben c'est encore meilleur qu'hier ». Donc il y a beaucoup de patients addicts, on va leur dire « Pourquoi vous prenez de la drogue ?» Ils vont vous dire « Je sais pas ». Il y en a qui vont prendre de la drogue parce que le sevrage leur fait mal, donc ils vont en prendre plus. Mais si on prend un addict qui est dépendant à l'héroïne, on le sevre, c'est-à-dire qu'on le met 3 mois dans une pièce capitonnée, où il ne peut pas se suicider, où il sue, où il vomit, tout ce que vous voulez. Au bout de 3 mois, il n'a plus de sevrage. Il ne souffre plus. Un jour, il va se mettre à rechuter. On ne sait pas pourquoi. Il est très fort probable que ce jour-là, il ait été exposé à des stimuli qui étaient précédemment associés à la drogue et que ces stimuli aient directement engendré cette réponse-là. Le plus grave dans tout ça, c'est que la drogue fasse du bien ou pas du bien quand on la prend, il y a un problème d'inflexibilité de certaines régions du cortex préfrontal, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a des parties du cerveau qui sont impliquées dans l'interprétation des propriétés de plaisir qu'on a et pour dire si c'est motivant ou pas, si c'est bon ou pas. Eh bien, on a des régions qui sont inflexibles et donc systématiquement dans les drogues nous disent c'est bien meilleur que ce que ça aurait pu être. Donc bien évidemment, on va chercher à en avoir toujours plus en plus, même si quand on prend la drogue, ce n'est pas forcément meilleur. Ça vous va ? Donc, les patients addicts ont un problème mnésique associé à un problème motivationnel. Ce n'est pas forcément tout ce qu'ils ont, mais c'est déjà très important. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que cette motivation pathologique est soutenue par les effets négatifs du sevrage. Donc, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe ? Bah, vous l'avez tous vécu. Je viens de manger, je passe devant une pizzeria, ça me dégoûte plus qu'autre chose. J'ai vraiment faim, je passe devant une pizzeria, c'est trop bon. Lorsque notre corps a un certain besoin, les stimuli dans l'environnement qui ont des propriétés motivationnelles voient leurs propriétés motivationnelles accrues. Quand j'ai faim, une odeur de pizza, c'est vraiment meilleur. Ça donne vraiment plus envie que quand je n'ai pas faim. Eh bien, le sevrage, ça fait exactement le même effet. Quand je me sens mal, bien évidemment que la drogue est beaucoup plus attirante que quand je me sens bien. Alors, un problème qui se pose à nous, en fait, biologistes, c'est le jeu. Parce que bien évidemment, toutes les drogues, ce sont des molécules. Elles ont une activation physique directe sur certaines molécules dans notre cerveau et elles changent le cerveau. Le jeu, il n'y a pas de pharmacologie. On se met rien dans le sang, on ne se met rien dans la tête. Et pourtant, on peut développer une addiction au jeu aussi grave qu'une addiction à la cocaïne. Comment ça peut se passer ? Donc il y a en fait une théorie psychologique vraiment dominante depuis 2 ans dans le domaine. On ne sait pas du tout comment ça se passe, mais une solution, et qui s'avère être pour l'instant vérifiée, c'est que les gens qui jouent, qui étaient vulnérables au jeu pathologique, ont un problème d'interprétation du hasard. À savoir que lorsque je suis placé devant une machine à sous comme celle-là, il faut véritablement que là, mes cinq bouches, soient alignées. Que j'en ai 4 alignées, 1 à l'ouest, 2 alignées, 3 à l'ouest, ça ne change rien. Il faut vraiment que l'ensemble de ces stimuli soit aligné. Eh bien, les personnes qui font un jeu pathologique, ce qu'ils se disent, c'est « Ouh, j'ai les 5 sur l'écran, j'y suis presque. » Qu'ils aient les 5 ou qu'ils en aient une, le hasard, c'est le même. mais ils interprètent ça comme j'y suis presque. Donc ils vont vouloir se dire, je vais devenir meilleur, donc je vais me réentraîner pour y arriver. Donc ils ont un véritable problème d'interprétation du hasard, et ils considèrent que ce qui est un fait du hasard est en fait devenu une histoire de compétence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils présentent une inflexibilité dans l'interprétation des pertes. C'est-à-dire que très souvent, si je perds 5 000 $ quand je vais au casino, je vais me dire c'est pas grave. Par contre, quand j'ai gagné 10 €, c'est hyper bien. D'accord ? Donc il y a un véritable problème de balance dans l'interprétation des pertes par rapport aux gains. Donc voilà. J'ai 5 bouches. J'y suis presque. Il faut que je continue, même si je viens de perdre 5 000 €. Donc on a un petit peu balayé des aspects de psychologie. Je vais essayer de vous familiariser avec certaines approches qu'on peut avoir en biologie. Bien évidemment, s'il vous plaît, interrompez-moi dès qu'il y a quelque chose qui ne devient pas clair, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que je vous présente ce qui va suivre. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que l'addiction, c'est une vraie maladie du cerveau. C'est une maladie de tout le cerveau. Ce n'est pas une structure dans le cerveau, ce n'est pas une molécule dans le cerveau, c'est tout le cerveau qui est malade. Et il faut qu'on comprenne comment on arrive à un état malade. Donc, chez l'homme, on a développé, dans les dernières années, différentes façons de pouvoir étudier le cerveau sans faire mal aux gens, sans leur faire des choses bizarres. Donc, on les met simplement dans des IRM ou dans des champs magnétiques. Des fois, on leur injecte des petits produits un petit peu radioactifs pour voir la radioactivité, mais rien de grave. Et là, en fait, ce que je vous propose, c'est de regarder les résultats d'une technique qui permet de voir l'anatomie du cerveau et de mesurer les volumes de différentes structures dans le cerveau. Et on voit que chez des gens qui ont pris de la méthamphétamine depuis très longtemps, on se retrouve, ici en rouge, en jaune, avec une réduction de la taille de certaines régions du cerveau. Donc pour la suite, je me permettrai de vous rappeler qu'en fait, le cerveau, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une masse homogène. Ce n'est pas une histoire qui a le cortex, ce qu'on voit là, et après c'est blanc, il n'y a rien. Le cerveau, c'est un organe super complexe, avec beaucoup de structures, normalement, notamment beaucoup de structures internes, et on va être amené à parler de différentes structures internes dans le cerveau. Donc là, ce qu'on voit, c'est que des gens qui prennent de la méthamphétamine ont certaines parties de leur cerveau qui voient leur nombre de neurones diminuer, leur nombre de structures gliales, qui sont les cellules qui soutiennent les neurones dans le cerveau, diminuer. Voici une autre technique qui permet de voir, en fait, l'activation de structures dans le cerveau chez des patients. On les met dans l'appareil, ils ont une caméra et une télé devant eux, et on leur présente des stimuli. Une petite fleur dans un jardin, un mec en train de se shooter à la coke, un mec qui a pris un accident de voiture, donc des stimuli positifs, des stimuli neutres, des stimuli aversifs, et on regarde comment les structures du cerveau s'activent en réponse à la présentation de ces stimuli. Et bien ce qu'on voit là, c'est que chez des patients qui sont normaux, il y a une région du cerveau ici qu'on appelle le cortex singulaire qui ne s'active pas, qui s'active chez des patients qui sont dépendants à la cocaïne. Mais cette région ne s'active que lorsqu'on présente à ces patients des stimuli qui sont associés à la cocaïne. Donc il y a véritablement des régions dans le cerveau qui sont capables de reconnaître des scènes associées à la prise de drogue et qui s'allument fortement chez les patients qui ont été exposés aux drogues. Donc je peux vous en faire un paquet comme ça. Là, je voulais vous présenter celle-là parce que c'est une anecdote assez intéressante. On a ici un patient qui a développé une addiction à la cocaïne, un patient contrôle. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le nombre de récepteurs à la dopamine dans le cerveau des gens vivants. Donc les récepteurs à la dopamine, c'est le neurotransmetteur ou l'hormone dans le cerveau qui a longtemps été considérée comme l'hormone du plaisir. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, mais on sait quand même qu'elle est impliquée dans l'addiction. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui prennent de la cocaïne depuis très longtemps, il y a une forte diminution des récepteurs à la cocaïne, ce qu'on voit là en rouge, par rapport à des groupes contrôle. Alors, je vais vous dire là, ce n'est pas les vraies couleurs, c'est simplement des couleurs artificielles, et ça illustre simplement la gravité des modifications biologiques. Ça, c'est une autre technique, donc c'est aussi un cerveau humain, ce n'est pas un cerveau de singe. C'est une autre technique qui permet de mesurer l'activité métabolique des neurones. Donc nos neurones, principalement, en fait, nos neurones fonctionnent au glucose. Toutes nos cellules du corps peuvent fonctionner à autre chose qu'au sucre, mais les neurones, c'est exclusivement du glucose, c'est vraiment les cellules Formule 1 de l'organisme. Et on peut mesurer le métabolisme, la consommation de glucose chez les gens. Et là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que chez des patients qui ont pris de la cocaïne, on se retrouve, en fait, avec un métabolisme diminué par rapport à des patients contrôle. Et ce métabolisme est diminué où ? Dans des régions du cortex préfrontal. Donc la fameuse bosse des maths, la partie de notre cerveau qui est impliquée dans la motivation, dans la planification de l'action, dans le contrôle de soi, dans la personnalité. Donc il y a véritablement des déficits biologiques un peu partout. Je vais passer celle-là. Donc en conclusion, l'addiction, on a de la matière grise réduite, il y a une activation anormale des structures limbiques, donc les structures de notre cerveau, des émotions et de la motivation, en réponse aux stimuli à la drogue, et il y a une altération profonde des systèmes de communication chimique. Bref, il y a vraiment une grosse altération. Donc le pauvre cerveau est malade. Les limitations qu'on a, en fait, de l'imagerie chez l'homme, c'est que lorsque le patient se présente au psychiatre ou au médecin, il a déjà pris de la drogue pendant 15 ans, il est déjà dépendant. Donc en fait, les modifications dont je vous ai parlé là, est-ce qu'elles précèdent la prise de drogue ? Est-ce que ces gens-là, ils étaient déjà comme ça avant de prendre de la drogue et c'est parce qu'ils étaient comme ça qu'ils sont devenus addicts ? Ou est-ce que les altérations dont je vous ai parlé, ce sont des altérations qui sont conséquentes à une prise de drogue ? Parce que bien évidemment, on va comparer des gens qui prennent de la cocaïne à des gens normaux. On ne va pas s'amuser dans des laboratoires à donner de la cocaïne à des gens qui n'en ont jamais pris. Donc il y a des gens qui ont une très longue histoire de prise de cocaïne et des gens qui n'en ont jamais pris. Qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule ? La question inverse, quelles sont les altérations qui sont conséquentes à la prise de drogue ? Et en fait, comment savoir comment est le cerveau d'un addict avant qu'il n'ait pas pris la drogue ? Donc il y a deux possibilités. On essaie de ressusciter quelqu'un comme Staline et il met une partie de la population dans un goulag depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et là, on a une analyse longitudinale, donc de la naissance jusqu'à la fin de la vie, qui nous permet de voir qui va être dépendant ou pas. Le problème là-dedans, c'est même si ça pourrait être sexy, c'est que malgré tout, on ne peut pas contrôler l'environnement de chacun. Si je suis dans une cellule avec quelqu'un qui est deux fois plus fort que moi et deux fois plus grand, qui me tape dessus toute la journée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable et c'est peut-être ça qui va me rendre addict. Donc ce sont des choses qui sont nécessaires. Il est important de pouvoir faire des analyses longitudinales, de la naissance à la mort, mais dans des conditions contrôlées. Donc en fait, pour répondre à la question « qu'est-ce qui fait de nous des gens vulnérables ?» On n'est pas tous vulnérables, on n'a pas tous la chance de résister aux drogues. Eh bien, on peut revenir au modèle préclinique de l'addiction. Et là, nos petits amis animaux nous rendent de grands services. Donc, l'intérêt des modèles précliniques de l'addiction. Les animaux, spontanément dans la nature, ils aiment bien s'en mettre une de temps en temps. Donc, on voit très souvent, alors si vous allez sur YouTube et vous écrivez « éléphant bourré » ou « drunk elephant », vous verrez des éléphants qui secouent des pommiers dont les pommes sont fermentées, qui font tomber les pommes, qui mangent 2 tonnes de pommes et qui partent en titubant. C'est très rigolo avec les girafes, parce qu'elles sont plus capables de tenir leur coup. Bref, les animaux, spontanément, véritablement, aiment les effets des drogues, comme nous. Donc, la prise volontaire de drogue, ça existe dans la nature, ça se voit chez les oiseaux, ça se voit chez les écureuils, ça se voit chez les éléphants. Et on peut véritablement la contrôler en laboratoire. Et un des très bons modèles, c'est le rat. Donc vous avez ici une image d'une cage qu'on appelle une cage d'auto-administration. C'est une cage dans laquelle l'animal va s'administrer tout seul de la drogue. Comment ça se passe ? On a implanté chez cet animal un cathéter, donc un petit tuyau, qui va dans la veine jugulaire et qui ressort au niveau du dos. Et ce cathéter est connecté au tuyau que vous voyez là, qui lui-même est connecté à une pompe qui est au-dessus. Cette pompe, elle est pleine de cocaïne ou d'héroïne ou ce que vous voulez. Et l'animal va très vite apprendre que s'il met son museau dans un trou, ou s'il appuie sur un levier, ça va déclencher la pompe et il va recevoir une injection de cocaïne, d'héroïne, de ce que vous voulez. Il apprend ça en 20 minutes. Il apprend ça très vite. Donc on peut véritablement mesurer une prise de drogue volontaire, parce qu'on ne force pas le... Bon, on le met dans la cage, d'accord ? Mais il a le choix, il peut ne pas prendre de drogue. Donc c'est une prise de drogue volontaire chez l'animal. Ce qui est très intéressant, c'est que les rats s'auto-administrent toutes les drogues d'abus. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes un peu familiers avec l'histoire des drogues, les rats ne s'auto-administrent pas de LSD par exemple. Mais l'LSD, ce n'est pas une drogue d'abus. Donc toutes les drogues euphorisantes ne sont pas des drogues d'abus, mais les animaux s'auto-administrent toutes les drogues d'abus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque rat, c'est un rat unique, ce n'est pas forcément un clone d'un autre. Donc on a des différences interindividuelles. Tous les rats ne répondent pas de la même façon aux drogues. Et je vous présenterai des résultats un petit peu plus tard. En laboratoire, on peut contrôler l'histoire de l'individu. On peut le mettre avec un plus fort, on peut le mettre avec un plus faible, on peut le mettre tout seul, on peut les mettre quatre, on peut les faire jouer. Donc on a à Poitiers la chance, Mathieu Solinas met ses animaux dans des grandes cages où ils ont des roues, des maisons, des tunnels, et il montre que cet enrichissement de l'environnement diminue les effets addictifs des drogues. Donc on peut tout contrôler, on peut manipuler l'environnement, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce qui est très, très important, c'est qu'on peut avoir accès au cerveau. À savoir qu'à l'issue d'une manipulation, on peut aller voir les gènes dans le cerveau, quels sont les gènes qui diffèrent après, entre des animaux qui ont été exposés à la drogue ou pas. On peut véritablement faire des choses chez l'animal qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du cerveau, que bien évidemment, éthiquement, on ne peut pas faire chez l'homme. Donc, les modèles animaux ont permis de déterminer quelles étaient les structures impliquées dans les effets renforçants des drogues. Donc, les effets renforçants, ce n'est pas les effets addictifs, c'est comment les drogues font qu'on aime prendre des drogues. On a pu comprendre tout ça grâce aux modèles animaux. On a aussi pu comprendre quels étaient les messagers chimiques, donc les neurotransmetteurs, qui étaient recrutés par les drogues. Donc la seule chose que les drogues font, une des choses que les drogues font, c'est simplement usurper les systèmes de renforcement naturel. Elles prennent la place de la nourriture ou du sexe ou ce que vous voulez, et elles disent que c'est encore meilleur que tout ça. Et ça, ça nous a permis de comprendre comment les messagers chimiques étaient recrutés par les drogues. Et on peut aussi, on a bien évidemment compris quels étaient les gènes dans le cerveau, dans quelle structure du cerveau qui étaient altérés par l'exposition aux drogues. Donc, brièvement, on sait que l'auto-administration de drogue entraîne une augmentation de la concentration de dopamine dans le cerveau, mais dans une partie particulière du cerveau, le striatum ventral, qui est une structure au cœur du système limbique. Mais attention, on a aussi compris que la dopamine, ce n'est pas du tout l'hormone du plaisir ou le neurotransmetteur du plaisir. Comment on a compris ça? C'est une manipulation très facile. On a demandé à un petit singe d'appuyer sur un bouton pour avoir un jus d'orange. Et lorsqu'il a le jus d'orange, il y a une petite lumière qui s'allume. La même histoire des stimuli conditionnés. Eh bien, si on enregistre l'activité de ces neurones dopaminergiques, les neurones de l'hormone du plaisir, on voit qu'à la première présentation du jus d'orange, les neurones s'activent beaucoup lorsque le petit singe boit le jus d'orange. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même exercice, mais le stimulus associé au jus d'orange est présenté avant le jus d'orange. Comme ça, le petit singe, il sait qu'il va avoir du jus d'orange. Et bien dans ces cas-là, les neurones dopaminergiques, ils s'excitent au moment du stimulus, puis au moment du jus d'orange. Mais le plaisir, le singe, il a au moment du jus d'orange. Donc ça implique qu'en fait, la dopamine, c'est bien au-delà du plaisir. C'est aussi important dans les propriétés motivationnelles de ce qui prédit l'accès au plaisir. Donc, je vais simplement faire un résumé ici. On a réussi à distinguer trois circuiteries dans le cerveau particulières impliquées dans trois différents stades de l'addiction. Un de ces stades, c'est la prise de drogue. Donc, on sait que la prise de drogue, on ne va pas forcément aller dans le détail, on pourra en discuter après si vous voulez. La prise de drogue, elle implique le striatum, c'est une très grosse structure sous-corticale qui est impliquée dans les émotions, c'est le striatum ventral, et le contrôle du comportement, c'est le striatum dorsal. Les neurones dopaminergiques qui sont là de l'aire tegmentrale ventrale ou de la substance noire compacte, ainsi que les projections du thalamus, qui est une autre grosse structure sous-corticale, vers le cortex. Donc ça, c'est lorsqu'on prend de la drogue, voici les structures qui sont impliquées. Lorsqu'on n'a plus la drogue, et qu'on se sent mal, et qu'on est en sevrage, eh bien, ce sont d'autres systèmes qui sont recrutés, et particulièrement le système du stress dans le cerveau. Donc, vous avez tous eu, quand vous avez peur, un petit coup au cœur ou des choses comme ça. Ça, c'est le stress périphérique qui met en place des hormones particulières qui sont sécrétées par l'hypothalamus. Mais en fait, il y a aussi un stress psychique avec d'autres hormones qui sont sécrétées directement au niveau du cerveau. Et la prise de drogue recrute particulièrement ces systèmes de stress qu'on appelle le CRF, qui est le facteur de libération de la corticostérone, ou la noradrénaline, qui est un autre neurotransmetteur. Et ces systèmes de stress vont aller jouer au niveau de l'amygdale, la structure dans laquelle les peurs naissent, l'anxiété naît, des choses comme ça. Donc c'est une structure vraiment au cœur des émotions. Les systèmes de stress au sein de l'amygdale ou au sein du striatum ventral vont faciliter la recherche de drogue lorsqu'on est en sevrage. Et enfin, une grosse partie, donc pour l'instant on a parlé de structure sous-corticale, mais il y a tout le cortex. Lorsque l'obsession arrive, lorsqu'il y a un petit stimulus dans l'environnement, une table qui ressemble à une table sur laquelle j'ai pris de la coke, et que là, l'envie de coke m'arrive, et l'idée de la coke prend toute la place dans mon cerveau, c'est l'ensemble des structures corticales qui sont impliquées, notamment le cortex préfrontal, où là, l'idée est là, Et il faut que j'arrive à gérer cette idée, essayer de ne pas prendre de la drogue, jusqu'au moment où soit j'arrive à contrôler, soit c'est plus fort que moi, je vais prendre de la drogue. Et donc, ce qu'on appelle le craving, les obsessions, implique l'ensemble des structures corticales, notamment toujours l'amygdale, et une structure qui a un joli nom, l'hippocampe. L'hippocampe, elle est la structure qui, chez les taxis londoniens, est deux fois plus grande que chez les autres. En fait, l'hippocampe, c'est une structure impliquée dans la mémoire spatiale, ou plus spécifiquement, les mémoires complexes. Et bien évidemment, les taxis londoniens qui connaissent la carte de Londres par cœur ont un gros hippocampe par rapport à d'autres gens. Mais l'hippocampe, malheureusement, c'est aussi impliqué dans l'addiction, tout simplement parce que si c'est impliqué dans la mémoire spatiale complexe, eh bien, là où j'ai pris de la drogue, dans quel contexte j'ai pris cette drogue, c'est aussi extrêmement important lorsque je vais rechercher la drogue ultérieurement. Donc là, je vous ai présenté l'ensemble un petit peu des structures qui sont impliquées dans différents stades de prise de drogue ou d'addiction. Cependant, ces résultats ne sont basés que sur des données de rats qui prennent de la drogue. En fait, seulement récemment, on a pu développer des modèles d'addiction chez le rat. Et ces modèles nous permettent de dire, l'idéal, ça serait, on sait qu'il y a des gens qui deviennent addicts, mais ces gens qui deviennent addicts, en fait, ils étaient déjà vulnérables avant d'avoir pris de la drogue. Ils étaient addicts, mais ils ne savaient pas. L'idéal, ça serait de pouvoir, grâce à l'animal, revenir et savoir qui, ici, deviendra un jour addict. Et donc, en fait, on a pu mettre en place une stratégie chez l'animal qui est similaire à celle qui est faite chez l'homme. Donc, on est un peu devenu des psys, des rats. Et on a pris, toujours pareil, les critères du diagnostic chez l'homme et on a essayé de pouvoir avoir des comportements chez l'animal qui ressemblaient. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le désir persistant ou les effets infructueux pour arrêter la prise de drogue. On a mesuré chez le rat, dans la cage d'auto-administration, le maintien de la recherche de drogue, même si la drogue n'est pas là. On apprend au rat qu'il y a certaines périodes, il y a des grosses lumières qui s'allument dans la cage, pendant ces périodes-là, la drogue n'est pas là. Et tous les animaux apprennent à ne pas répondre, parce qu'ils savent que la drogue n'est pas là. Sauf que malheureusement, un jour, certains vont continuer à répondre. On a ensuite décidé que les activités réduites ou le temps important passé à rechercher et à consommer la drogue, ça c'était des signes d'une très forte motivation. Comment on mesure la motivation chez un animal? On fait appel à ce qu'on appelle la théorie économico-comportementale, à savoir que je vais aller rechercher quelque chose qui est bon, seulement si le coût pour l'obtenir n'est pas supérieur au plaisir qu'il me procure. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'animal de travailler de plus en plus, appuyer de plus en plus sur un levier, pour avoir une injection de cocaïne, ou pour avoir une injection de ce que vous voulez. Et il va arriver un moment où l'animal va se dire hey, là, tu me demandes trop pour avoir l'injection de cocaïne. Il va arrêter de répondre. Et au moment où il arrête de répondre, la quantité de comportement qu'il a émis est un bon index de la motivation qu'il avait pour prendre la drogue. Et enfin, on a réussi à modéliser la consommation de la substance prise malgré ses conséquences néfastes, qui est le critère majeur de l'addiction, par le fait de vérifier si des animaux seraient capables d'accepter une punition. Alors c'est un petit choc électrique dans les pattes. Malgré cette punition, est-ce qu'ils vont quand même prendre de la drogue? D'accord? Donc ce qu'on a fait, alors, là pour vous rappeler, ça c'est la persistance de la prise même si je ne peux pas avoir la drogue. Ça c'est la motivation pour la drogue, la quantité de travail que j'effectue. Et ça c'est la résistance à la punition. Ça va me faire mal, mais je vais y aller. Eh bien on est capable, on entraîne des populations d'animaux en auto-administration et au bout d'un moment on mesure chacun de ces trois critères et on regarde quels sont les animaux qui ont des scores forts ou des scores faibles. Alors il y a des animaux qui sont jamais dans les plus forts de la population pour ces critères-là. Donc ces animaux-là, ils sont zéro critère. Ils ne sont pas super motivés, ils ne vont pas forcément chercher la drogue quand elle n'est pas là, et surtout, ils ne vont surtout pas chercher la drogue si ça fait mal. Il y a des animaux qui vont présenter un seul critère, pas les deux, d'autres qui vont en présenter deux, et enfin, ceux qui nous intéressent vont présenter les trois critères. Comme chez l'homme, si un animal présente trois critères au cours des deux derniers mois, chez l'homme c'est 12, mais la vie d'un animal c'est plus court, au cours des deux derniers mois, et bien cet animal, on va le considérer comme addict. Et donc, sur une population d'animaux, tout le monde prend la même quantité de drogue, certains vont développer un comportement qui ressemble à l'addiction, d'autres vont résister à l'addiction. Et donc on va comparer les animaux 0 crit et les animaux 3 crit. Et lorsqu'on regarde les scores de chacun de ces animaux pour chacun de ces critères, donc ici, le breakpoint, ça c'est la motivation, ça c'est la persistance de la recherche de drogue même si elle n'est pas là, Et ça, c'est la compulsivité. C'est le maintien de la prise malgré ses conséquences néfastes. On voit que, bien évidemment, on les a sélectionnés comme ça. Les animaux 3 critères ont des scores très très hauts et les animaux 0 critères ont des scores très très bas. Et on est capable de regarder combien d'animaux présentent ces différents critères. Et en moyenne, les animaux qui présentent l'addiction, les 3 critères, représentent 15 à 20% de la population exposée. Et je vous avais dit au début de cet exposé que chez l'homme, c'est 15 à 20% des gens qui prennent de la drogue qui deviennent addicts. Donc, il semblerait que les proportions d'individus vulnérables à l'addiction, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, puissent être à peu près équivalentes. Et une autre chose intéressante aussi, c'est qu'il est possible chez l'animal, et on fait la même chose chez l'homme en fait, de combiner ces 3 critères en un seul score, un score d'addict. Combien je suis addict, comme une échelle de Richter, malheureusement pour les tremblements de terre, on a une échelle de l'addiction, combien je suis addict sur 0 à 10. Et on peut voir en fait que les rats addicts ont des scores très forts et que les rats non addicts ont des scores très faibles. Et on peut utiliser cette échelle-là pour voir a posteriori comment étaient les animaux avant qu'ils prennent la drogue. On les a depuis qu'ils sont nés, ces animaux-là. On peut les tester avant qu'ils prennent la drogue et voir quand ils sont devenus addicts, comment ils étaient avant. Et donc on peut servir de ce critère. Je vais vous donner ici l'illustration d'une expérience qui nous a permis de... Il revient. Excusez-moi. C'est bon. Non, c'est pas bon. Donc j'introduis d'abord. C'est une expérience qui nous a permis de déterminer si l'impulsivité, je vous ai dit tout à l'heure que les patients addicts présentaient une très forte impulsivité. Est-ce que l'impulsivité, c'est une conséquence de la prise de drogue ou est-ce que le fait d'être très impulsif nous rend vulnérable à l'addiction? On ne peut pas répondre forcément à cette question chez l'homme. On a essayé d'y répondre chez l'animal. Donc l'impulsivité, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des impulsivités motrices, à savoir que s'il y a quelqu'un que j'aime pas trop, qui me dit quelque chose de désagréable, j'y colle un pain. C'est un comportement mal adapté, je ne mesure pas les conséquences de mes actes, et je ne l'ai pas contrôlé, et c'est vraiment un acte impulsif. Il y a d'autres formes d'impulsivité motrice, d'impulsivité qui sont par exemple l'impulsivité cognitive, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on me dit, tu as 1 000 euros aujourd'hui ou tu as 10 millions d'euros demain, si je suis impulsif, je vais prendre les 1 000 euros aujourd'hui. Et là, vous allez tous me rire au nez, mais il y a des gens qui vont faire ça. Donc, il y a différents types d'impulsivité. Là, on s'est intéressé à l'impulsivité motrice. C'est-à-dire qu'on a voulu voir des animaux. On leur demande d'attendre qu'un stimulus leur dise « c'est comme ça qu'il faut que tu répondes ». À ce moment-là, ils doivent répondre et ils ont leur récompense. Et des fois, on leur demande d'attendre un petit peu plus longtemps que le stimulus arrive. Et dans ces cas-là, on va voir s'ils sont capables d'attendre ou s'ils vont tenter, ils vont répondre. Donc ça se passe comme ça. Donc là, voilà. Donc l'animal, voilà. L'animal fait face à 5 trous. Une petite lumière s'allume au sein d'un de ces trous. Il doit répondre dans le trou pour venir chercher sa récompense dans un magazine. À un essai suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'attendre un peu plus longtemps. Et dans ces cas-là, certains animaux sont véritablement pas capables d'attendre que la petite lumière s'allume et vont répondre au hasard dans un trou qui n'est pas le trou approprié. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? D'une part, ils n'ont pas leur récompense, mais en plus, ils ont une punition, c'est-à-dire que tout s'arrête pendant 40 secondes. Ils sont obligés d'attendre pour recommencer. Et donc, si on demande aux animaux d'attendre de plus en plus longtemps, on est capable d'avoir des animaux, donc c'est ce que vous avez ici. Le fait qu'ils répondent avant que la lumière s'allume s'appelle une réponse prématurée. J'ai répondu avant le signal qui me disait quelle était la bonne réponse. Et bien, lorsqu'on demande aux animaux d'attendre un peu plus longtemps, ce qui est dans le point 3 là, il y a vraiment des animaux qui ne sont pas capables d'attendre et qui vont faire plus de 60% de réponses prématurées. C'est-à-dire qu'un coup sur deux, ils vont faire n'importe quoi. D'accord ? Et bien, ce qui a été montré, et j'espère que vous m'aviez écouté auparavant, c'est que ces animaux qui répondent de façon prématurée importante, il a été montré qu'ils ont beaucoup moins de récepteurs dopaminergiques dans le striatum. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la biologie d'addiction chez l'homme, je vous ai dit que je voulais vous montrer ça parce que chez les addicts à la cocaïne, il y a moins de récepteurs dopaminergiques dans le striatum. La question c'était, est-ce que c'est avant la prise de drogue ou est-ce que c'est une conséquence de la prise de drogue? Eh bien là, on a des animaux testés avant la prise de drogue qui sont très impulsifs et ils ont moins de récepteurs dopaminergiques dans le striatum. D'accord? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a passé ces animaux-là dans le modèle que je vous ai présenté avec les différents critères. Et ces animaux-là, ils sont en rose. Et en fait, ils présentent un score d'addiction très très fort par rapport à des animaux qui ne sont pas impulsifs. Donc les animaux impulsifs ont un score d'addiction fort par rapport aux animaux non impulsifs. Et ce score d'addiction, à quoi il est dû? En fait, il est dû spécifiquement, vous avez là les roses et les jaunes, il est dû spécifiquement à une résistance à la punition. Vous vous rappelez, il y avait trois critères, la motivation, la persistance de la prise quand la drogue n'est pas là, et la maintenance de la prise, malgré, le maintien de la prise malgré ses conséquences néfastes. Eh bien, les animaux très impulsifs, après une forte exposition à la drogue, vont être capables de se dire bah « là, ça va faire mal, mais quand même, je vais y aller ». Ils développent spécifiquement une compulsivité sur la prise de drogue. Donc, voilà, je vais passer. Donc ça illustre qu'il est possible chez l'animal, par le contrôle de l'environnement et de l'histoire de l'animal, d'une part de pouvoir démontrer qu'un trait comportemental, l'impulsivité, s'est augmenté chez les patients addicts, pas forcément parce que la drogue augmente l'impulsivité, mais parce que ça peut préexister, parce que le fait qu'on soit impulsif, ça peut nous rendre vulnérables à l'addiction, mais aussi parce qu'on peut aller voir le cerveau, ça permet de démontrer que des altérations du cerveau qu'on peut déterminer chez l'homme préexistent la prise de drogue chez l'animal. Donc ça permet vraiment de répondre à certaines questions comme est-ce que les altérations que j'ai chez mon patient addict, elles étaient là avant qu'il prenne la drogue ou elles sont conséquentes à la prise de drogue. Donc on a récemment développé de nouveaux outils qui permettent chez l'animal de mieux comprendre l'addiction. D'un point de vue psychologique, là on a parlé de l'impulsivité, on s'est intéressé à d'autres traits comportementaux, mais aussi d'un point de vue biologique, parce qu'on peut descendre dans le cerveau. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était le fait de prendre de la drogue, c'est pas du tout le fait que ce soit une addiction. Soyez pas inquiets, si vous faites votre petit vin rouge tous les soirs, c'est pas très grave. Les conclusions générales, en fait, c'est que les addicts, c'est des gens qui n'ont pas un problème de motivation. C'est pas des gens qui sont trop faibles. C'est pas eux et moi, ça m'arrivera jamais. C'est des gens qui sont malheureusement victimes d'une maladie. L'addiction, c'est une maladie comme une autre. Et ce qui est très alarmant, c'est qu'en fait, vu que c'est super sexy, il y a beaucoup plus de jeunes qui vont prendre des drogues dures. Donc il y a eu la phase de l'ecstasy dans les raves. L'ecstasy, c'est pas addictif, ou pas beaucoup, mais ça tue les neurones. Donc c'est pas super top. Et les drogues comme la cocaïne ou l'héroïne, il y a un rebond en Europe depuis 2 ans. Il y a une augmentation de 20% chaque année de la consommation de cocaïne ou d'héroïne chez les moins de 20 ans. Donc bien évidemment, tout cela ne développe pas une addiction. Mais les pauvres 15 à 20% là-dedans, qui sont vulnérables, ils ne vont pas être bien. Ce qui nous pose problème, c'est qu'encore aujourd'hui, en fait, les mécanismes de l'addiction ne sont pas connus. C'est une maladie compliquée et on ne comprend pas tout. Il n'y a aucun traitement efficace. Donc, par exemple, pour l'instant, quelqu'un qui est addict à l'héroïne, on va lui donner de la méthadone. La méthadone, c'est quoi? C'est de l'héroïne qui ne dure pas 2 heures, mais qui dure 5 heures, ou 6 heures, ou 12 heures. Mais c'est la même chose. Et la méthadone est classée dans les substances addictogènes, dans la classification de l'ONU. L'addiction, ce n'est pas une maladie en fait propre à l'homme. Il semblerait que des animaux présentent des troubles de l'addiction. Et donc, ça nous permet de nous affranchir de la question d'éthique. Est-ce qu'il est intéressant d'aller s'amuser à vouloir comprendre l'addiction avec des modèles animaux si l'addiction, c'est une maladie que de l'homme? Très souvent, on pense que les maladies psychiatriques, ça vient de notre supériorité intellectuelle, notre supériorité du cerveau, et que ça n'est propre qu'à l'homme. Eh bien, il s'avère qu'on retrouve des troubles de l'addiction chez l'animal aussi. Donc, les animaux pourraient nous permettre de vraiment comprendre cette maladie. Et bien évidemment, les études précliniques sont véritablement la clé de la compréhension de l'addiction. Donc, je voudrais remercier la personne qui m'a fait m'entraîner dans la recherche sur l'addiction, Mohamed Jaber, l'ensemble de mes mentors et de mes collègues, et principalement ma femme qui m'a soutenu tout au long de ma carrière et grâce à qui je suis là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Tu nous as montré un tableau de lésions à un moment donné.
Ah, pas de lésions.
Non, c'est pas de lésions du tout. C'est un terme impropre.
Je comprends ce que vous voulez dire. C'est le tableau qui montre des diminutions de volume de cortex.
Voilà, par exemple. Oui.
Ce ne sont pas forcément.
C'est pas forcément des lésions.
Non.
Alors, j'avais deux questions. Une, est-ce que ce sont des lésions? Et deux, est-ce que c'est irréversible?
Alors, ce dont vous parlez, d'abord, c'est pour que tout le monde. Oula. Bon, je vais revenir aux lésions. Donc la réponse, c'est ce ne sont pas des lésions, parce qu'en fait, une lésion, c'est une destruction spécifique d'une structure par un mécanisme particulier. Il y a des lésions, véritablement, induites par exemple par la méthamphétamine. Ça détruit des neurones dans le cerveau et c'est irréversible. Il y a une possibilité, on sait que de nouvelles cellules dans le cerveau naissent au cours de la vie, c'est des découvertes qui sont assez récentes. Avant, on pensait qu'on naissait avec un nombre de neurones et qu'on mourait avec le même nombre de neurones. Il existe dans le cerveau des structures qui nous permettent d'avoir de nouvelles cellules. L'équipe en fait, de Marcello Solinas s'intéresse aussi à la toxicité induite par la méthamphétamine et ils travaillent sur les différentes molécules ou les manipulations environnementales qui peuvent protéger des lésions induites par les drogues. Dans le cas que je vous avais présenté, c'était peut-être de la méthamphétamine d'ailleurs, c'était pas véritablement une lésion qui était montrée là, c'était simplement une diminution de la surface corticale. Par exemple, chez les patients qui souffrent de dépression, il y a aussi une diminution des volumes corticaux. Mais il se peut très bien, et ça a été démontré, que les neurones soient toujours là. Il n'y a pas une perte de neurones, simplement les neurones sont plus petits. Ils présentent moins de contacts entre eux, ce qui fait qu'ils prennent moins de volume. Une lésion, c'est une disparition véritablement des cellules. Donc ce n'est pas forcément une lésion qui était relatée là.
Je voulais savoir s'il y avait les addictions étaient sexuées. Parce qu'on sait qu'au niveau des consommations, les hommes consomment plus que les femmes. Est-ce qu'au niveau des addictions, on retrouve un peu ce...
Bonsoir. Donc oui, c'est assez surprenant. Les hommes et les femmes ne sont pas vulnérables à l'addiction dans les mêmes périodes de leur vie. Donc avant 25 ans, les hommes sont plus vulnérables à l'addiction que les femmes. Après 25 ans, c'est les femmes. Donc, il y aurait, on pourrait dire, une polarité de l'addiction en termes de nombre d'individus. Il y a plus d'hommes dépendants que de femmes, parce que très souvent, les hommes ont plus accès aux drogues que les femmes et consomment bien évidemment plus. Donc, à partir du moment où on recrute plus de gens, il y a plus d'addicts. Cependant, dans les 10 dernières années, on s'est rendu compte que dans la tranche des 45-60 ans, les personnes qui avaient eu accès au LSD, à la cocaïne, à l'époque de Woodstock, par exemple, et qui avaient plus de 25 ans, ces personnes, lorsqu'elles ont atteint 60 ans, il y a beaucoup plus de femmes addictes que d'hommes. Par contre, chez ceux qui ont fait Woodstock de moins de 25 ans, il y a plus d'hommes addicts que de femmes. Donc il y a une polarisation en fonction des périodes de la vie.
Donc on ne retrouve pas les 15-20% en fait, que vous avez expliqué sur...
Globalement.
Globalement, si.
Tout à fait, oui.
L'écart n'est pas significatif sur...
Il se peut qu'il le soit pour certaines drogues, je ne vais pas vous dire de bêtises là. Si on prend, par exemple, je vous ai dit 15 à 20%, c'est pour l'ensemble des drogues. Pour la nicotine, c'est 70%. Pour l'héroïne, c'est presque 80%. Pour la cocaïne, c'est 30%. Pour d'autres drogues, c'est moins. Donc, d'une façon générale, c'est 15 à 20%.
S'il n'y a pas de questions, merci encore à Monsieur Belin. Merci. Et puis j'espère avoir de nouveaux résultats peut-être l'an prochain, à l'occasion de la prochaine semaine du cerveau. Sinon, bonne fin de soirée à tous. Puis je vous invite à nous retrouver vendredi, ici même à l'espace Mendès France, pour la projection du film ainsi que du débat sur la maladie d'Alzheimer. À bientôt, bonne fin de soirée.
Merci, bonne soirée.